Santé Beaujolais d'Ombes.
L'émission de santé du territoire.
100.9 Calade.
Bonjour à tous et bonjour à toutes. Une heure d'émission pour échanger sur l'actualité de la santé du territoire Beaujolais d'Ombes. Vous pouvez retrouver l'émission Santé Beaujolais d'Ombes sur le site internet de Radio Calade, www.radiocalade.fr, ou sur la page Facebook, ou également sur le site internet de la CPTS Beaujolais d'Ombes, je vais y arriver, et sur la page Facebook de la CPTS. Cette émission est préparée par l'équipe radiophonique de la communauté professionnelle territoriale de santé Beaujolais d'Ombes, je vous rappelle, CPTS, et animée aujourd'hui par Alexandra, bonjour.
Bonjour.
Cécile, bonjour.
Bonjour.
Petite nouvelle.
Oui.
Ça fait quoi?
Déjà, on essaye de s'habituer à sa voix. C'est un sacré cap.
En tous les cas, bienvenue parmi nous.
Merci.
Et aux manettes, Amaury. Salut. Aujourd'hui, nous allons découvrir la maladie de Parkinson. Ce syndrome parkinsonien touche en France 25 000 nouveaux cas, avec 160 000 patients en traitement et avec une prévalence plus importante pour les hommes. Si cette maladie touche préférentiellement les plus de 65 ans, il faut quand même signaler que 17% ont moins de cet âge. La maladie a été découverte en 1817, tu t'en souviens ?
Oui, bien sûr.
Oui. Par Sir James Parkinson, médecin britannique, et il l'a décrit comme une paralysie agitante. C'est Charcot, un peu plus tardivement, en 1872, qui va en étudier les tremblements et la paralysie, et qui va proposer également le nom de maladie de Parkinson. Alors, faut savoir que cette maladie touche le système nerveux central, le cerveau, et plus spécifiquement la substance noire qui produit la dopamine. Cette perte de dopamine va causer la perte de la coordination, de la fonction motrice, entre autres choses. Comme souvent dans cette émission, nous allons voir deux temps, l'explication de la maladie et de ses multiples retentissements. Nous aborderons également le ou les traitements disponibles et l'offre de soins présents sur notre territoire. Le traitement, c'est également les activités proposées par des associations comme France Parkinson sur le territoire Beaujolais d'Ombes. En fait, tout un programme avec la présence aujourd'hui du docteur Stéphane Pesson. Bonsoir.
Bonsoir.
Et monsieur Xena de l'association France Parkinson.
Bonsoir.
Est-ce que j'ai bien prononcé votre nom ?
Non, c'est Zénia.
Zénia, excusez-moi.
C'est pas grave.
Par votre expérience personnelle, vous nous ferez découvrir la maladie au quotidien et comment vous arrivez à la dompter, entre autres choses, avec le partage d'activités que vous avez au sein de l'association France Parkinson. Ce sera le deuxième temps de notre émission. Dans un premier temps, docteur, est-ce qu'on parle de maladie ou de syndrome parkinsonien ?
Alors, on peut parler des deux. Le syndrome parkinsonien comprend la maladie de Parkinson, mais il y a également d'autres maladies qui vont participer à ce syndrome. La maladie de Parkinson, c'est la maladie la plus fréquente dans tous ces syndromes parkinsoniens, de très loin. C'est une maladie neurodégénérative du cerveau, comme vous l'avez dit, qui atteint plusieurs éléments. La motricité, et puis le versant non moteur, qui est assez important aussi. Troubles digestifs, troubles de la pensée, ralentissement de la pensée, troubles émotionnels aussi.
Donc ça signifie qu'il y a plusieurs maladies dans le syndrome parkinsonien ?
Oui, le Parkinson, c'est la maladie la plus fréquente des syndromes parkinsoniens, mais il y a d'autres pathologies qui ressemblent un peu, qui ont quelques éléments de la maladie de Parkinson, mais qui ont également des éléments en plus. Alors on les appelait à un moment les syndromes parkinsoniens plus. Maintenant, on les a mieux définis. Il y a l'atrophie multisystématisée, il y a la paralysie supranucléaire progressive, et puis il y a d'autres maladies, la maladie à Cordes-Lévy.
Et toutes ces maladies ont quoi en commun, du coup, alors ?
Elles ont un syndrome parkinsonien. Donc,
c'est des tremblements,
ça peut être des tremblements, c'est pas la forme la plus fréquente. Les gens peuvent trembler. Il y a surtout un ralentissement des gestes qu'on appelle une akinésie, et puis une raideur qu'on appelle une hypertonie parkinsonienne, où les gens sont un petit peu plus raides, un peu plus lents. C'est plus la lenteur qui définit la maladie de Parkinson. On peut trembler, c'est pas obligatoire. J'ai des patients qui ont un Parkinson qui n'ont jamais tremblé, qui ne trembleront pas. Et puis d'autres, ça a commencé comme ça.
D'accord. Et donc, dans, mis à part les, donc les, comment dire, les manifestations physiques, vous disiez qu'il y a d'autres, d'autres symptômes. Au niveau de... il peut y avoir une dépression ou il peut y avoir des choses un peu comme ça aussi avec le syndrome, avec le syndrome parkinsonien ou...
Oui, alors dans la maladie de Parkinson, il y a souvent effectivement une baisse du moral, on appelle une dépression en fait, qui est induite par, par la carence en dopamine, entre autres. Le Parkinson, c'est essentiellement lié à une carence en dopamine, hein, donc comme vous avez expliqué au début de l'émission. Il y a moins de dopamine dans le cerveau, les neurones qui font la dopamine qui sont dans la substance noire et qui projettent dans d'autres, surtout du cerveau interne, ne font plus cette dopamine. Donc ça entraîne plein de symptômes, notamment tout ce qui est sur le versant moteur, mais également non moteur, dont la dépression, effectivement. Et d'ailleurs, quand on met en route un traitement pour le Parkinson à base de dopamine, on en parlera un peu plus tard, souvent on améliore le moral des gens.
Et au niveau de, du nombre de cas, est-ce qu'il y a plus de cas de Parkinson maintenant qu'avant? Est-ce que c'est mieux diagnostiqué ou comment?
Alors, je pense que c'est mieux diagnostiqué. On prend les gens en charge mieux également. Donc la prévalence va augmenter. Il y en a peut-être un petit peu plus dans les pays industrialisés. On ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs. Mais c'est en tout cas une maladie qui est extrêmement fréquente.
Et dont on connaît les causes?
Pas vraiment. On sait ce qui peut donner des fois des maladies de Parkinson, enfin qui peut les favoriser, mais on ne connaît pas les causes. Il y a de très rares formes génétiques. Donc souvent, c'est Parkinson qui commence une maladie très très jeune, les Parkinson juvéniles ou avant l'âge de 40 ans, mais le plus souvent, la maladie, elle est sporadique.
Sporadique?
C'est-à-dire que ça vous tombe dessus comme ça.
D'accord.
Pour résumer.
Au niveau de l'âge, on a parlé donc de l'âge. C'est vrai que elle apparaît chez les gens enfin, au-delà de 65 ans, mais il y a quand même 17%, comme je le disais, qui peuvent être atteints de cette pathologie. Donc finalement, c'est une pathologie jeune aussi.
C'est une pathologie du sujet jeune. 65 ans, c'est l'âge médian des patients chez qui on découvre une maladie de Parkinson. Donc ce n'est pas une maladie de quelqu'un qui est très âgé. C'est vraiment une maladie qui peut toucher des gens qui sont en activité professionnelle. Parfois, c'est plus jeune, hein, 40 ans, 50 ans. Ce n'est pas exceptionnel de commencer une maladie à l'âge de 45 ans ou 50 ans, 55 ans.
Est-ce que c'est plus les hommes qui sont touchés que les femmes?
Il y a un peu plus d'hommes dans les différentes séries de littérature médicale. C'est un peu plus fréquent chez les hommes, oui.
Est-ce que les symptômes sont différents chez les hommes et chez la femme ou on retrouve les mêmes tableaux?
Alors, les symptômes sont globalement identiques chez les hommes et chez la femme, mais surtout... Là, vous soulignez, la maladie est extrêmement hétérogène. C'est-à-dire que je n'ai pas deux patients qui ont Parkinson qui ont les mêmes symptômes. L'évolution est également différente pour chaque patient. Donc la prise en charge, elle est extrêmement individualisée, en fait.
D'accord. Et si les symptômes sont aussi différents, comment on fait le diagnostic, alors?
Alors le diagnostic, il est essentiellement et très majoritairement clinique. Ben, souvent, les gens viennent nous voir parce qu'ils se trouvent un peu ralentis. Donc ils ont un ralentissement des gestes. Une raideur, ils peuvent trembler effectivement, donc c'est un tremblement de repos, c'est-à-dire qu'ils tremblent spontanément, un tremblement un peu tout au lent, et puis quand ils vont faire le mouvement, le tremblement il va disparaître. Donc souvent c'est ça qui va attirer le regard des gens, c'est le tremblement ou la raideur, le ralentissement de la marche aussi, enfin quelque chose qui n'est pas habituel, surtout qui est évolutif.
Qu'est-ce qui fait que le mouvement est ralenti au départ et qu'une fois qu'il est commencé, on voit souvent les patients qui ont du mal, par exemple, à marcher. Le début de la marche est difficile, mais une fois qu'ils ont commencé, il n'y a plus de soucis. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui explique cette difficulté au départ du mouvement, puis ensuite
C'est une initiation du mouvement qui se fait mal, en fait. C'est tous les mouvements automatiques ou semi-automatiques qui sont difficiles. Et pour démarrer une marche, ce n'est pas aussi simple que ça. En fait, il faut un peu prendre en compte son environnement, il faut démarrer le programme. Comme vous dites souvent, c'est un des premiers signes, effectivement. Enfin, on peut avoir des gens qui ont du mal à démarrer une marche, ils vont franchir une porte, mais ils vont se bloquer à nouveau, ils franchissent la porte, et après, le programme il est identique pour marcher. Et puis dès qu'ils ont un ajustement à faire, à nouveau, ça va être perturbé, et ils vont à nouveau se bloquer avant de redémarrer.
Est-ce qu'on peut dire que c'est une perte de l'automatisme, finalement?
C'est une perte de l'automatisme moteur, oui. C'est pas une maladie qui entraîne une baisse de force. Il n'y a pas de baisse de force chez les gens, hein. Quand on teste les gens, on leur fait serrer les mains, ils vont faire très très mal aux mains. Ils n'ont pas de baisse de force, mais c'est une perte du contrôle du mouvement.
D'accord. Ok.
Vous disiez tout à l'heure que au niveau du déclenchement, en fait, c'était des patients qui étaient autour de l'âge médian de 65 ans, quelque chose comme ça. Ça enfin, pouvait être aussi d'ailleurs. Plus jeune, voilà. Oui. Qu'est-ce qui peut provoquer cette maladie, en fait?
Alors, on ne connaît pas tout. Il y a sûrement des facteurs environnementaux qui vont fragiliser. Mm-hmm. Dans certains cas, on reconnaît, comme maladie professionnelle, des patients qui font un Parkinson et qui sont agriculteurs. Certains pesticides ont été suspectés de la maladie, c'est reconnu comme une maladie professionnelle.
Donc l'environnement peut être un facteur déclenchant.
Peut être un facteur déclenchant, oui.
D'accord.
Et d'ailleurs, s'il y a plus de Parkinson dans les pays industriels, c'est peut-être pour ça aussi, en fait, parce qu'on a plus de polluants également.
D'accord. Donc en fait, est-ce qu'il y a des disparités au niveau des régions, peut-être, vous savez?
Alors ça, je ne suis pas au courant, non.
Peut-être plus dans les régions agricoles ou...
Non, parce que ça, c'est compliqué, en fait. Hein. Mm. C'est une maladie qui va s'installer vraiment... Alors, elle commence avant la maladie, avant les signes cliniques. Donc, c'est pas aussi simple que ça.
Et justement, mis à part les signes cliniques, les signes dont on parlait tout à l'heure, le tremblement, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme symptômes aussi? Est-ce qu'au niveau de la parole...
Alors oui, les gens ont une parole qui devient très, très monotone, très, très monocorde. Surtout, ils n'ont plus les modulations. Ce qu'on va voir aussi... C'est toutes les mimiques du visage qui sont un petit peu éteintes, ils ont un peu un faciès...
figé.
Assez figé, peu expressif, parce que toute la motricité automatique, quand on parle, on a une communication au canal verbal assez importante, et les gens, ils ont vraiment une voix très très monotone, ils parlent comme ça, ils ont une voix plus d'armement très très modulée.
Mm-hmm. D'accord.
Alors c'est vrai que quand on parle Parkinson, on vient de le dire, c'est le mouvement, mais il n'y a pas que ça. On vient de voir effectivement la parole. Il y a aussi les troubles de déglutition.
Ça peut arriver,
ça
pas
peut arriver.
En début de maladie quand même. C'est pas la forme la plus fréquente. Il y a souvent une hypersalivation. Par contre, les gens ils sont en mouchoir à la main parce que souvent ils salivent un peu plus. Il y a des fois une hypersudation aussi. Ils ont un petit peu de visant. Oui.
Donc les troubles de la voix et de la parole, ce sont des symptômes qui apparaissent quand même dans la majorité des cas,
oui.
Contrairement aux troubles de la déglutition.
On les voit plus précocement. On va dire la parole qui devient monotone, c'est un des signes. En fait, c'est la perte de la motricité automatique et semi-automatique. Donc, les gens ont une voix qui est beaucoup moins modulée. Donc, oui, ça, on le voit précocement. Et d'ailleurs, on peut les prendre en charge avec de l'orthophonie.
Star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car, passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, 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 there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Don't stop me, don't stop me. Have a good time, good time. Don't stop me, don't stop me. Oh.
Sentez vos gelées d'ombre.
Vous venez d'écouter
Don't Stop Me Now de Queen.
Le Parkinson est donc une maladie du système nerveux central aux multiples causes et aux multiples symptômes, comme on vient de le voir. Quels sont les traitements disponibles actuellement? Si on reprend par exemple, on était sur le mouvement, on a commencé par le mouvement. On a parlé de la dopamine, donc j'imagine qu'il y a des choses de ce côté-là. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus?
Alors, on va parler du traitement médicamenteux, parce qu'après, on abordera le traitement non médicamenteux. Donc, en termes de traitement, on fait essentiellement appel à la dopamine. Alors, on a deux formes de dopamine, soit la dopamine, entre guillemets, pure, qu'on apporte en comprimé, ben, c'est le Modopar et le Cinemet, c'est plusieurs prises par jour, avec des dosages variés, qu'on peut répéter. Et puis sinon, on a des traitements qu'on appelle par agoniste dopaminergique qui ont l'avantage le plus souvent d'avoir une seule prise par jour. Donc c'est un agoniste, c'est une molécule plus grosse que la dopamine, mais qui agit sur les mêmes récepteurs et souvent plus longtemps. Donc c'est pour ça qu'on peut uniquement des fois avoir un traitement au départ en une seule prise par jour. Mais tous les patients qui ont un Parkinson auront un jour ou l'autre de la L-DOPA, donc la dopamine pure, Modopar ou Cinemet pour les marques qui sont distribuées en France.
Et il existe que de la dopamine par comprimé? On peut l'avoir d'une autre façon?
Alors, en traitement les plus classiques, c'est en comprimé. On a un agoniste dopaminergique qu'on peut mettre en patch, en timbre, sur la peau. Mais le plus souvent, c'est en comprimé, oui.
Il n'y a pas d'injection en retard, par exemple, ou de choses comme ça? Ça n'existe pas?
Alors, pas en dopamine, ça... C'est en train de pointer le bout de son nez d'ici quelques... dizaines de mois, on va dire, mais en traitement de première ligne, qu'on appelle les premières lignes, c'est essentiellement comprimé, oui.
D'accord.
Il y a des progrès qui ont été faits sur les traitements? Ou on est toujours avec les
Alors,
mêmes types
le,
de traitements?
Il faut savoir que le traitement, il est symptomatique. Et que pour mes patients, je vais traiter une gêne fonctionnelle. C'est-à-dire que j'ai des patients qui vont avoir un petit tremblement, si ça ne les gêne pas, que ce n'est pas la main dominante, hein, si c'est quelqu'un qui tremble la main gauche alors qu'il est droitier et que ça ne gêne pas tout le temps dans sa vie, je ne vais pas l'embêter avec un traitement.
En fait, vous êtes en train d'expliquer que vous ne soignez pas la maladie.
Je traite les symptômes.
Les symptômes.
Je n'ai pas signes. Un traitement pour arrêter la maladie ou arrêter l'évolution de la maladie.
D'accord. Et donc, il y a quand même des progrès qui ont été faits
Il y a des progrès qui ont été faits en termes de forme galénique, en termes de suivi. Le principal, ce qu'il faut faire, c'est arriver à suivre les patients de façon assez régulière. Alors, on fait ce qu'on peut avec les moyens dont on dispose, mais il faut que les patients aient un suivi assez régulier.
Mis à part le traitement médicamenteux, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre alors pour les
patients? Alors après, pour les patients qui sont un peu plus évolués, est-ce qu'on ne va pas non plus faire des traitements très compliqués des patients qui commencent une maladie, hein, une maladie qu'on va suivre sur des nombreuses années. Encore une fois, c'est une maladie qui peut... Les patients, moi, le plus patient le plus. Quand j'ai commencé comme en 2004, je suis encore un patient que je suis toujours, enfin depuis 2004, donc ça fait bientôt 20 ans que je le suis. Il est encore ambulatoire. Donc c'est pas forcément une maladie qui est handicapante, mais qui n'est pas non plus une maladie dramatique et qui évolue vite comme d'autres maladies neurologiques.
Et donc, du coup, quel traitement est-ce qu'il
Alors,
peut,
après, il y a des traitements de seconde ligne. Donc, il y a un traitement chirurgical, c'est la stimulation cérébrale profonde, où on implante des électrodes dans le cerveau des patients. C'est relié à un boîtier sous la peau. Il y a des traitements un peu moins peut-être compliqués, parce que là, il y a un critère d'âge aussi. C'est pas pour les patients, plutôt les patients les plus jeunes. Il y a des traitements par pompe à apomorphine, donc on injecte un produit qui est un agoniste dopaminergique sous la peau, on continue la journée avec une pompe sous-cutanée. Et puis si on apporte du gel de Duodopa, donc par une sonde de jejunostomie, où on met un tuyau dans la portion qui commence l'intestin grêle et on perfuse également, continue, un gel de dopamine. Mais ça, c'est pour les patients qui sont fluctuants et pour lesquels les traitements médicamenteux pris par voie orale, donc en comprimé, sont compliqués, où il y a plusieurs prises par jour et on n'y arrive pas vraiment. C'est-à-dire qu'ils vont à la fois avoir des blocages et des mouvements anormaux. Donc ils sont à la fois sous-dosés et puis par moments un peu en surdosage. Donc c'est là où on arrive à des fluctuations motrices et c'est là où on peut être amené à mettre en route ces médicaments-là.
Non, c'est vrai, je reviens à une chose, parce que vous venez de l'aborder très brièvement. Il y a des fameuses périodes, ce qu'on appelle on-off.
Oui.
Est-ce qu'elles sont véritablement présentes? Est-ce que c'est aussi flagrant que ça? Enfin, on décrit généralement que, pas à la minute, mais en tous les cas, un patient peut très vite être dans une période où il se sent nettement moins bien, d'un coup, quoi, enfin, sur le quart d'heure qui suit.
C'est ça. En fait, les patients vont avoir des flux. Alors, ce n'est pas les patients en début de traitement, hein. Ce n'est pas les patients en début d'évolution, pardon. C'est des patients qui vont, au bout de quelques années, après la phase de lune de miel, c'est-à-dire que la phase de lune de miel, c'est quand on met en route au début un médicament, ça marche. Dans le Parkinson, les patients sont DOPA sensibles, donc le traitement va être efficace et ils ont quasiment une vie, entre guillemets, ils retrouvent une fonction normale. Et puis, au bout de quelques années, bah, les choses vont commencer à se dégrader. Il faut commencer à compliquer le traitement, à multiplier les prises. Et puis, bon, ils vont avoir des fluctuations entre des phases de blocage où ils sont off. Donc, ça peut arriver en un quart d'heure, parfois moins. Et puis, ou des phases où, au contraire, après un off, ils vont avoir des mouvements anormaux. Ils sont trop dosés. On appelle un surdosage, des dyskinésies, une danse de Saint-Guy. Ils bougent un peu tout seuls, mais c'est différent du tremblement. Donc c'est là où le traitement va être un petit peu compliqué à adapter. On va être amené à envisager un traitement de seconde ligne.
Et donc pour les pompes, comment ça se passe? Comment les patients gèrent ça au quotidien? Ils ont une aide particulière? Ils sont formés à l'hôpital?
Alors les pompes, on en met en place à l'hôpital de Villefranche depuis quelques mois maintenant. On passe par un prestataire médical. Ça se fait à l'hôpital. Pour l'instant, on monte progressivement la dose des pompes. La pompe, ça se met le matin, ça s'enlève le soir. Ça peut être une infirmière qui passe au domicile du patient tous les jours pour brancher la pompe. Et puis des patients qui deviennent autonomes par rapport à ça, qui apprennent à brancher, à se débrancher, avec quand même toujours quelqu'un qui les surveille, qui est disponible au besoin. Nous, on va les suivre aussi assez régulièrement en consultation, mais ça nécessite quand même une hospitalisation pour la mettre en place pendant quelques jours.
Et ça se présente comment? Est-ce que c'est une pompe comme pour les personnes diabétiques, par exemple? C'est plus volumineux? Ça se change? Il y a un cathéter qui se change régulièrement?
Ça, alors, ça va se changer tous les jours. Ça ne se voit pas vraiment. C'est-à-dire qu'ils ont un petit
boîtier.
Une petite banane, un petit boîtier qui est dans la banane. Et puis le fil, il est branché sur la peau avec un t-shirt. On ne voit pas, en fait.
Oui, hein. Comme pour les diabétiques.
C'est quasiment invisible.
D'accord.
Et la place de la rééducation?
Alors, la prise en charge non médicamenteuse, elle est essentielle. Parce qu'en fait, le traitement par la dopamine, il ne va pas jouer sur tous les symptômes. Des symptômes qui vont être dopa sensibles, donc ça, c'est les traitements, ça marchera. Et d'autres qui vont être dopa résistants, tout ce qui est trouble de la marche. C'est là où la kinésithérapie a un grand, grand intérêt. Et les patients, rapidement, là, on va privilégier également une prise en charge non médicamenteuse par kinésithérapie. Il faut vraiment qu'ils travaillent leur posture. Souvent, les patients parkinsoniens, ils sont penchés en avant. Ils peuvent vraiment aller jusqu'à des déformations du dos importantes. Donc, vraiment, travailler sur la posture par de la kinésithérapie. Donc, il faut qu'ils soient physiques aussi, qu'ils aient une activité physique assez régulière.
Assez régulière. Et puis, le travail de toute la stabilité dynamique, donc la stabilité à la marche. Donc, après, effectivement, il y a une rééducation qui est spécifique et qui doit effectivement être suivie par le patient complètement.
Au niveau de... Vous parliez tout à l'heure des troubles de déglutition. Du coup, je pense qu'ils ont peut-être de l'orthophonie aussi.
Oui, ils peuvent avoir de l'orthophonie. Alors souvent, c'est par rapport aux troubles de la parole. Donc, il y a une technique spéciale, qui est la technique LSVT, où l'orthophoniste va prendre en charge le patient pendant quelques semaines de façon un peu intensive pour travailler la voix, sur la force de la voix, sur le maintien de la voix. Et puis également, des troubles de déglutition qui peuvent apparaître un peu plus tardivement et qui ont également une prise en charge orthophonique aussi.
En plus de toutes ces rééducations et des traitements médicamenteux, est-ce qu'il y a des règles d'hygiène particulières ou des recommandations pour limiter l'avancée de la maladie ou améliorer le quotidien?
Alors, il n'y a aucune prise en charge spécifique à montrer qu'on freinait un peu les choses. Avoir une vie saine, c'est quand même important, avoir une santé physique. Ne pas trop boire, ne pas trop fumer, enfin, les conditions habituelles, mais il n'y a rien qui n'a montré d'efficacité. Par contre, on sait que si le cerveau est agressé par d'autres facteurs, ça peut aggraver le cerveau. Enfin, le cerveau va s'abîmer un peu plus vite.
Je pense notamment à l'activité physique, au sport. Est-ce que c'est quelque chose de fortement recommandé ou bien il faut apprendre à gérer son activité physique par rapport à la maladie.
Alors moi, j'engage les patients à rester actifs, à avoir une activité physique régulière, mais pas non plus à les s'épuiser en faisant 12 heures de sport par jour. Parce que là, du coup, on est contre-productif aussi. Enfin, c'est comme tout, l'excès est l'ennemi du...
D'accord.
Santé, Beaujolais d'Ombes.
Calade.
Radio Calade 100.9 et vous venez d'écouter
Shake It Off de Taylor Swift.
Merci.
De rien.
Toujours bien.
Bien sûr.
Nous venons de découvrir la maladie de Parkinson, donc, qui est une maladie qui peut être contrôlée par la prise d'un traitement, mais également par l'activité physique. On l'a vu, l'activité physique ne se cantonne pas aux techniques de rééducation, mais doit être complétée par de l'auto-rééducation et puis aussi par une pratique sportive quotidienne. Pour en parler, M. Zenia, vous êtes bénévole à France Parkinson, vous êtes également le premier concerné par cette maladie. Comment est-elle apparue et comment la vivez-vous au quotidien ?
En fait, elle est apparue en 2008, à mes 40 ans, sac à cadeau.
Ouais.
Qui d'abord un ralentissement, et puis ensuite, moi ça m'inquiétait pas, je suis quelqu'un de très, très zen, très cool, donc ça m'a pas inquiété du tout. Puis en 2010, j'ai eu le bras gauche qui a commencé à trembler, donc on m'a, j'ai consulté mon médecin traitant qui m'a envoyé donc, chez un neurologue libéral, qui m'a diagnostiqué un tremblement essentiel. Parce que Parkinson, à l'époque, pour un homme de 40 ans, c'était pas trop dans l'air du temps.
Excusez-moi, qu'est-ce que c'est un tremblement essentiel ?
C'est-à-dire
qu'il n'y a que le tremblement, ça veut dire ? Oui,
c'est une maladie qui apparaît chez l'homme de 40 ans.
D'accord.
Et il n'y a pas de traitement non plus. Donc.
D'accord.
C'est en fait un tremblement qui n'est... C'est pas vraiment une maladie, en fait. C'est des gens qui vont trembler, mais en attitude. C'est-à-dire que quand on... Là, pour le coup, quand ils font une action, ils vont trembler, ils vont être vraiment gênés. Puis dès qu'ils arrêtent, ils ne tremblent plus. Souvent, c'est souvent un peu familial, là, pour le coup. Qui est familial. C'est un tremblement qu'on a tous, mais qui est bien plus ample chez ces personnes-là.
D'accord.
Puis en 2010, surprise, c'est la jambe gauche qui a tremblé. Donc là, mon médecin traitant s'est un peu inquiété. Elle m'a envoyé directement à neuro, à l'hôpital neurologique de Bon, à Lyon, vers le professeur Boussol à l'époque, qui a repris ses retraites maintenant. Et qui m'a diagnostiqué en 2012 la maladie de Parkinson.
Donc 4 ans entre le moment où vous avez les premiers symptômes et le diagnostic.
Voilà, oui, tout à fait. Mais on dit que la maladie apparaît et est présente depuis 5 ans, avant les premiers signes moteurs.
D'accord.
Elle évolue par saccade, par épisode ?
Alors normalement, la maladie de Parkinson, de mes connaissances faibles, je le connais, mais bon, progresse par escalier, c'est en fait. En fait, ouais. Elle progresse, elle vous laisse tranquille, elle reprogresse à nouveau. Bon, moi, c'était assez linéaire, c'était... Et en 12 ans, je suis arrivé au maximum du traitement médicamenteux, et c'est pour ça qu'il a été décidé en 2019 de la SCP, donc la stimulation cérébrale profonde.
D'accord, depuis 2019, donc.
Voilà, donc 2019, en fait, j'ai été mis sur liste d'attente, et puis il y a eu le Covid... La liste d'attente, donc il a fallu attendre 2 ans. Et puis en 2021, j'ai été opéré.
Vous avez été opéré sur Lyon ?
Sur Lyon à neuro, oui. Mm-hmm.
D'accord.
Et c'est une réussite totale.
Ça vous permet de ne plus avoir de traitement médicamenteux ?
Alors j'ai réussi à arrêter mon traitement médicamenteux, à la surprise de neuro, mais bon, c'est une résurrection, oui, tout à fait.
Ça veut dire que vous n'avez plus de tremblements, vous arrivez à avoir la parole plus fluide, vous avez vu la différence entre le moment où vous étiez sous traitement médicamenteux et le moment où vous êtes passé avec
La stimulation cérébrale profonde, effectivement, ça vous change la vie, mais ça n'agit pas sur tous les signes.
D'accord.
Ça n'agit pas sur la parole, mm-hmm. mais ça agit, la SCP, enfin, la stimulation cérébrale profonde, a agi principalement sur les tremblements. Et sur la raideur, sur les douleurs.
C'est douloureux. Vous aviez mal.
Ah oui, oui.
D'accord.
Oui.
C'est les mouvements saccadés qui provoquent des douleurs.
C'est plutôt la raideur.
La rigidité. Oui.
On est bloqué, on est figé, il y a une contracture et ça peut faire mal, oui. Donc effectivement, la stimulation reproduit souvent le meilleur état moteur, mais en continu. C'est-à-dire quand on fluctue, la stimulation va arrêter les fluctuations et reproduire le meilleur état moteur. En tout cas, c'est ce qu'on cherchait à obtenir par la stimulation. Manifestement, c'est votre cas et c'est bien.
Ah oui, ça fait 2 ans que je revis totalement.
Et après l'intervention, ça a été spontané. Enfin, vous avez vu l'amélioration de suite ?
Quand ils ont mis la pile en route, oui, tout à fait. C'est 2-3 jours après l'opération. C'est une opération qui dure 8 heures. Le temps de faire les trous dans la caboche et puis de placer les électrodes et puis la pile après sur la peau et tout. C'est d'une durée de 8 heures à peu près.
Mm-hmm. Est-ce que c'est comme ce qu'on voit parfois à la télé où les patients sont à moitié conscients et on vérifie
C'est ça. Tout à fait.
D'accord.
Tout à
fait, oui. Vous avez des souvenirs de l'intervention, du coup ?
Non, parce que moi j'avais un Parkinson tellement fort qu'ils ont dû m'endormir totalement et puis j'ai été réveillé à la fin. J'ai pas été réveillé pendant l'opération.
D'accord.
Bon, maintenant, avec les nouvelles techniques, avec la robotisation, avec les nouvelles techniques opératoires, ils arrivent maintenant à ne plus réveiller les gens systématiquement.
Okay. Quel est le conseil que vous pourriez donner à un patient qui se découvre parkinsonien ?
C'est pas la fin du monde.
Ouais.
Ah, ça, c'est... Il faut passer par une phase, à mon avis, d'acceptation de la maladie pour pouvoir la combattre. Parce que si on est dans le déni, on ne fera rien contre. Mais il faut accepter la maladie et puis se dire que c'est pas la fin du monde. Qu'il va falloir tout s'adapter puis trouver une autre façon de vivre. Mais c'est pas la fin du monde du tout.
Vous l'avez trouvé, vous, votre façon de vivre ? Parce que vous êtes quand même venu nous voir en vélo, là.
Hein. Ah oui, oui. Ben, j'ai arrêté de... J'ai fait le choix d'arrêter de conduire volontairement il y a 2 ans.
Et professionnellement, pour vous, c'est passé par des adaptations ? Vous êtes réorienté ? Comment ça s'est passé ?
Ben, après l'opération, je suis passé en invalidité niveau 1. À la sécurité sociale, donc je travaillais à mi-temps thérapeutique enfin en mi-temps, non pas thérapeutique, mais en mi-temps tout court. Et j'ai travaillé donc chez Carrefour et puis et j'ai eu une super direction qui a pris en compte mon handicap. Et en 2022, c'est la sécurité sociale et puis la médecine du travail qui a dit stop, on arrête tout. Parce que moi, je suis un peu un fou, donc je travaille. Je regarde pas mes heures et puis...
C'était pas vraiment un mi-temps, quoi.
Voilà, ouais, tout à fait. C'est un mi-temps à la pointeuse.
Alors, votre activité, votre pratique sportive, alors vous nous avez dit en préparant cette émission qu'il était important de faire du sport.
Oui, tout à fait,
et
oui.
Et que de ne jamais s'arrêter.
Ne jamais s'arrêter, si, parce qu'il faut arriver à dormir comme la nuit, mais bon.
D'accord. Mais je vois le genre.
Tout à fait. Mais disons qu'il faut qu'elle soit régulière et puis et il faut aimer ce qu'on fait, en fait. Il faut pas faire du sport pour faire du sport. Il faut trouver sa voix, son sport, en fait.
Il faut vous écouter.
Oui, voilà.
C'est ça.
Oui.
Finalement, il faut trouver votre sport et après il faut trouver à l'allure où vous voulez le faire.
Voilà, tout à fait.
On est bien d'accord avec ça. Et donc, vous, c'est le vélo.
C'est le vélo, c'est le ping-pong aussi avec sur Villefranche avec Handisport.
Et pourquoi le ping-pong ?
Le ping-pong, c'est pour la maîtrise des gestes et puis les réflexes et tout. Et c'est un sport qui est maintenant reconnu par France Parkinson et on développe ça dans toutes les villes.
Alors parlons de France Parkinson justement. Elle est implantée sur le Rhône.
Oui, tout à fait.
Sur Lyon, donc il y a de multiples activités. Est-ce que vous pouvez en parler ? Qu'est-ce que vous proposez ?
Sur Lyon, on propose donc du cyclisme, du vélo santé. Ouais. On propose du ping-pong avec à Gerland. On propose de la sophrologie, de la marche nordique, de la gym à part, du théâtre.
Donc ce sont toutes des activités qui sont encadrées par des experts, entre guillemets.
Oui, tout à fait. D'accord. Par des professionnels du handicap. Voilà.
Handicap et de la pratique.
Oui, tout à fait.
C'est uniquement sur Lyon.
Sur Lyon actuellement.
Pas pour l'instant encore sur Villefranche, c'est ça.
Voilà, donc moi je suis actuellement pour parler avec Handisport, une association donc caladoise sur Villefranche, et qui va proposer donc de la piscine, de la pétanque, du ping-pong et puis des jeux de société le mercredi pour casser un peu l'isolement des gens. C'est une très bonne chose. Et puis, je regarde également. Je suis en train de parler avec un club là pour faire de la marche nordique également.
D'accord. Et ça, c'est dans un avenir...
Proche, très proche.
D'accord.
Oui. Okay.
Et que vous appelez proche, on pourra en savoir un peu plus ou les auditeurs sont peut-être intéressés.
Disons qu'on attaquera... Là, c'est la fin de saison, donc on est au mois de mai. Donc, ouais. Les associations finissent au mois de juin. Fin juin, après, il y a les périodes de vacances d'été. Donc septembre, on va dire que septembre, ça sera bouclé.
D'accord. Et si certains souhaitent avoir plus d'informations sur les activités qui pourraient avoir lieu sur notre territoire, comment on fait ?
Donc on a une page internet locale, donc du comité de Lyon, que vous pouvez trouver sur le site franceparkinson.fr. Vous allez sur association, carte des comités, vous prenez la région du Rhône. Vous avez la page internet que je mets à jour.
Que vous animez.
Voilà, tout à fait, oui.
Qui fait partie d'autres activités, en plus des autres activités.
Voilà, tout à fait. Okay. En sachant que c'est que du bénévolat.
Bien sûr.
Tous les comités dans les régions, dans les départements, tous les comités sont gérés par des bénévoles.
Et vous cherchez des bénévoles pour la calade ?
Bien sûr.
D'accord.
Pour la calade et pour Lyon.
Pour la calade et pour Lyon, bien sûr.
Oui, bien sûr.
Mais on va parler de la calade pour l'instant.
Bien sûr. Bien sûr.
J'ai une patiente qui a monté sur Belleville une association sur le Parkinson dont j'entends que parler du bien, pour le coup, qui est très bien aussi.
Vous avez le nom de l'association, peut-être ?
Non, je ne l'ai pas.
Donc on la mettra disponible sur notre site internet, hein, que ce soit celui de Radio Calade ou celui de la CPTS Beaujolais Dombes, on pourra retrouver toutes ces informations. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, on pourra aussi nous réécouter. Ok.
Vivre au Parkinson, peut-être. Ça a l'air d'être ça.
pense.
Oui.
Est-ce qu'il y a d'autres activités qui sont proposées sur le comité de Lyon, mis à part celles que vous avez, des sports d'hiver, entre autres? Est-ce qu'il y a des choses qui sont...
Des sorties peut-être qui sont proposées ou des...
Non, pas particulièrement.
Pas particulièrement, d'accord. Okay.
Déjà, j'irai des... Toutes les activités, tous les ateliers qu'on offre, qu'on propose déjà à gérer, c'est déjà pas mal.
Oui, tout à fait. Ok, et peut-être aussi un partenariat avec l'hôpital, parce que l'hôpital Nord-Ouest a beaucoup d'associations, enfin, il y a des services qui travaillent beaucoup avec les associations.
Tout à fait, on est en contact.
Donc c'est super.
Je suis en contact avec le service neurologique
de l'hôpital
de chez nous. Ouais.
Est-ce qu'il y a des groupes aussi de parole peut-être pour les aidants ou pour
Oui, tout à fait. Donc on a repris donc en janvier le groupe de parole des aidants à Forest, à Joseph Forest, à Villefranche. On a lancé un groupe de parole pour les malades tout âge en février. Et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de jeunes de moins de 60 ans qui avaient des attentes différentes des gens plus âgés. Donc on a créé un troisième groupe qui s'appelle le Café des jeunes parkinsoniens, qui se rassemble une fois par mois également, comme les autres.
Sur Lyon ou sur Villefranche?
Sur Villefranche.
Sur Villefranche.
Tout à fait.
D'accord.
In a simple way, and if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time, picking up the pieces. Made were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you.
Beaujolais d'Ombes.
L'émission de santé du territoire.
100.9 Calade.
Vous êtes sur Radio Calade 100.9 et vous venez d'écouter
I'm Still Standing You. Non, Standing tout court.
Ah bah, de Elton John. Ça change tout là.
J'ai rajouté un mot. Désolée.
C'est pas grave. on a vu que le diagnostic pouvait être assez long, enfin en tous les cas que l'apparition des signes était plus ou moins long. Le suivi de la maladie, comment se fait-il après ?
Alors, le suivi, ça se fait essentiellement en consultation.
Oui.
On hospitalise rarement les patients, sauf cas particulier, un cas aigu d'intolérance à des traitements, ce qui peut arriver. Mais le plus souvent, on les suit en consultation assez régulièrement, ça va dépendre. On aime bien les revoir quelques mois après le diagnostic. Et puis après, c'est le suivi selon nos possibilités. Je dirais les patients qui vont bien, et s'ils voient tous les 9 mois, tous les ans, ceux qui vont bien, c'est un peu plus rapproché que ça. Mais c'est très variable. Et encore une fois, j'insiste bien, chaque patient est différent. Et comme vous avez dit, M. Zenia, il y a 200 000 patients, il y a 200 000 patients différents aussi.
Est-ce que l'adaptation du traitement peut être faite par le médecin généraliste ou c'est vraiment par le neurologue que ça doit être fait ?
Le médecin peut prescrire, le généraliste peut prescrire le traitement sans aucun problème. Après, le suivi, il faut quand même un suivi un peu spécialisé, parce que dès que ça va... Au début, le traitement, il marchera de toute façon, si c'est un Parkinson. Donc, après, c'est plus le suivi au long terme. Là, c'est plutôt du neurologue pour adapter le traitement, que ça devient un petit peu plus compliqué au bout de quelques années. Mais le médecin traitant peut être en place le traitement, oui.
Donc, en fait, c'est vraiment une pathologie qui va être pluriprofessionnelle.
Oui.
Dont, bien sûr, le médecin généraliste est le chef d'orchestre. Bien sûr, géré par vous-même.
On est vraiment binôme là-dessus, oui.
Voilà, en qualité de neurologue. Et puis après, tous les autres professionnels de santé de la rééducation qui vont venir se greffer.
C'est ça.
Voilà, et le patient est au centre.
Kinésithérapeute, orthophoniste, ergothérapeute aussi, médecin du travail pour les patients qui sont en activité professionnelle. On peut adapter les postes un peu comme vous avez fait. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Chaque patient, c'est très personnalisé en fait.
Au niveau des aidants, Monsieur Zenia, j'écorche pas votre nom, disait qu'il y avait un groupe de parole pour les aidants. Est-ce que dans les consultations, vous les voyez aussi ? Vous voyez uniquement les malades ?
Moi, le patient, il vient avec qui il veut. Donc souvent, je vois effectivement le conjoint ou la famille quand il n'y a pas de conjoint. Mais oui, je vois toujours les patients. J'aime pas les voir seuls, en fait, parce que, je trouve que des fois, il y a le patient qui vit, puis là, il ressent qu'il peut me voir seul ou pas.
Vous parliez aussi de dépression. Est-ce qu'au sein de l'hôpital, il y a des cellules psychologiques ou bien est-ce qu'ils peuvent être orientés au sein de l'hôpital vers un professionnel pour les aider ?
Pour les patients qui ont une plainte un peu plus cognitive, on peut faire un bilan neuropsychologique pour ces patients-là. Après, pareil, encore une fois, on est un peu limité en termes de capacité à répondre en termes de suivi psychologique. Hein, c'est un peu problème aussi.
Santé Beaujolais d'Ombes.
Nous remercions le docteur Pesson pour nous avoir éclairé sur la maladie de Parkinson, ainsi que Monsieur Zenia pour nous avoir fait partager son expérience, son retour d'expérience, la richesse des actions proposées également par France Parkinson. Si vous, cher auditeur, vous souhaitez des informations, vous pouvez donc retrouver l'émission en podcast, mais également toutes les informations que nous avons pu donner durant cette émission, donc sur le site internet de Radio Calade et de la CPTS Beaujolais d'Ombre. Merci, docteur.
Merci à vous.
Monsieur Zenia, merci.
Merci à vous également.
Nous deux, nous trois, nous quatre. Marie n'est pas là, donc nous quatre.
Oui, oui.
À bientôt.
À bientôt.
Même heure.
Même endroit.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir, merci.
Santé Beaujolais d'Ombes, l'émission de santé du territoire.
Santé Beaujolais d'Ombes.